Bonjour à toutes et à tous. Dans le MAG aujourd'hui, une réunion publique jeudi soir contre le projet de route autour du parc des expositions de Malan. Et puis pour commencer dans le MAG dans quelques minutes après les Rolling Stones, la fibre qui continue de se déployer en Aveyron. Voilà pour le menu. Les Rolling Stones donc tout de suite pour débuter avec le titre Child of the Moon sur CFM Rhodes. CFM Le Mag, 100 000 prises de fibre optique sont installées sur le département. Cette année, le déploiement va se poursuivre sous l'égide du conseil départemental, mais aussi de Bouygues Télécom notamment. Anthony Colombani est le directeur corporate de Bouygues Télécom. Il était à Rhodes hier.
Oui, je suis descendu en Aveyron, comme j'essaye de le faire le plus souvent, pour venir célébrer le raccordement de Bouygues Télécom au RIP, Alliance THD, c'est-à-dire pour célébrer l'arrivée commerciale de Bouygues Télécom en Aveyron et dans les départements limitrophes, où désormais nos clients pourront accéder à nos services fibre optique, comme dans les grandes villes du territoire et comme dans d'autres endroits en France.
Pour Bouygues Télécom, l'Aveyron, pour ce qui est de la fibre, on est en retard ou en avance par rapport à d'autres départements français ?
Non, l'Aveyron est un département qui est plutôt en avance. Il y a un réseau de fibre optique aujourd'hui qui est construit et qui est très bien construit. Nous-mêmes, nous sommes présents sur plusieurs dizaines de milliers de prises et nous allons déployer 20 000 prises supplémentaires d'ici l'été. Et donc, ça permettra à beaucoup d'Aveyronnais de se connecter. Le département est très dynamique. Ici à Rhodes, le déploiement de la fibre a été rapide, l'adoption de la fibre très rapide. On a aussi des chiffres importants à Saint-Afrique, par exemple, où ça va très vite. Donc c'est un département et même une région plus largement où l'appétence pour la fibre est très très importante.
Alors département qui a la particularité d'être vaste, et donc plus de la fibre, c'est du fil, donc plus de fil, entre guillemets, et puis très varié dans ses reliefs, rivières aussi. Absolument. C'est un contexte particulier pour vous ou vous en avez vu d'autres?
Alors la France est un pays dont les ingénieurs télécoms disent que c'est un véritable cauchemar à déployer parce que vous avez de la moyenne montagne, de la haute montagne, des vallées profondes, des zones planes. Évidemment, on n'a pas tant de plaines que ça. Et donc l'Aveyron est, oui, bien sûr, très très particulier, à une cohérence géographique qui est complexe à appréhender. Mais le travail que fait Alliance THD, c'est précisément d'aller déployer le réseau. C'est lui qui déploie mécaniquement le réseau. Et on peut compter sur cet acteur de terrain pour bien connaître les spécificités du territoire. Et donc on s'appuie sur son expertise, sur sa connaissance du territoire pour nous venir raccorder ensuite nos clients.
Ce lien entre le département et Bouygues Télécom pour l'installation de ces prises, c'est quelque chose de courant au niveau national ou...
On a toujours des relations avec l'opérateur qui déploie le RIP, qui est souvent à l'origine le conseil départemental. Mais dans l'Aveyron, la situation est un peu particulière parce que nous sommes également chargés, alors pas dans le fixe, mais dans le mobile, du déploiement des sites en lien avec les zones blanches. Un programme gouvernemental qui s'appelle le New Deal, qui consiste à déployer des sites 4G mutualisés, c'est-à-dire que c'est Bouygues Télécom qui les construit, mais ils sont accessibles à tous les clients de tous les opérateurs français. Et en Aveyron, nous sommes l'opérateur leader pour la quasi-totalité du site du New Deal. Donc on a une tradition de dialogue très ancienne avec le conseil départemental qui date de ce programme-là, qui fête ses 4 ans cette année. Et nous avons même mis en place une méthodologie spécifique de dialogue entre l'opérateur et les élus locaux, parce que ce sont les élus qui savent où il faut mettre les antennes. Et cette méthodologie a été adoptée par le département et étendue à l'ensemble des opérateurs aujourd'hui. Donc on a vraiment des liens très étroits, très techniques, avec des discussions très fortes sur les spécificités du territoire. Quelles communes on doit faire plus rapidement, quelle zone d'activité doit être couverte, quelle zone touristique est prioritaire. Nous, opérateurs, on n'a pas cette vision fine des besoins des personnes sur le territoire. On sait où sont les concentrations de population, mais pas où sont les activités. Et on a besoin de l'expertise des élus et du conseil départemental en priorité.
Alors juste un mot, je poursuis, même si ce n'est pas notre sujet forcément. Là, vous avez parlé des zones blanches. C'est vrai qu'il y en a en Aveyron. Enfin, il n'y a pas qu'en Aveyron. Mais... Donc c'est fini pour quand, ça? C'est le truc de « je lève le bras pour avoir du réseau
». Alors on se lève le bras, on lève le pied, on va téléphoner au pied du calvaire. Voilà, moi je suis d'origine corse et il y a encore quelques mois dans mon village, j'allais téléphoner. Voilà. Mais c'était bien parce que ça me permettait de rencontrer les autres habitants qui étaient confrontés à la même difficulté. Le New Deal, plus sérieusement, c'est un programme qui a été signé il y a 4 ans, qui marque un vrai changement de paradigme dans la résorption des zones blanches. En gros, jusque-là, les opérateurs faisaient à petits pas. Là, on le fait de manière beaucoup plus industrielle, avec des milliers de sites qui vont être construits. Donc, des zones blanches, il y en aura toujours. Surtout dans des départements comme l'Aveyron, il y aura toujours des endroits où il n'y aura pas forcément nécessité à mettre des sites mobiles. Mais on peut penser que dans l'année qui vient, il y aura une belle amélioration de la couverture. Un chiffre, la couverture 4G était de 89% en 2019. Aujourd'hui, début 2022, elle est à 97% de la population. Alors, il reste toujours 3% de la population et une surface sensiblement supérieure. Mais enfin, on a quand même bien, bien progressé.
Le déploiement de la fibre en Aveyron, c'est le travail de Alliance THD. Et ça avance plutôt bien. Le directeur général, c'est Patrice Pintrand.
Sur l'Aveyron, aujourd'hui, c'est facile à retenir aux deux tiers. Il y a environ 150 000 prises à construire, un tout petit peu plus. Ce matin, quand j'ai fait le point avec les services techniques, on passait le cap des 100 000 prises sur l'Aveyron. Alors 100 000 prises construites techniquement. On les a pas encore intégrées dans le SI, dans le système d'information. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas visible sur les différents sites internet des opérateurs commerciaux ou sur notre site sur lesquels on explique le déploiement. Donc on est ce qu'on appelle hors zone AMI, c'est-à-dire l'agglomération de Rodez, l'agglomération de Millau, qui ne sont pas pris en compte dans le cadre de ce déploiement.
Coup d'accélération à l'installation des prises en Aveyron en 2022 ou on poursuit sur la même lancée?
On poursuit, on a pris une cadence. Alors, on va dire les choses clairement, on a eu un départ qui a été compliqué parce qu'il faut mettre en place les équipes, il faut recruter 1300 personnes, il faut former 1300 personnes. Alors certes, les métiers de la fibre existaient déjà, mais pas à ce niveau-là, et surtout pas sur ces trois départements. Il a fallu contracter des accords avec les CCI, avec des groupements, l'UBTP, parce qu'on a besoin de faire du génie civil, avec OXO, par exemple. On a également le Greta sur Figeac qui nous a aidés. Donc on a déployé énormément de moyens avec les départements pour former, pour recruter, également avec Pôle emploi. Voilà, enfin, puis j'oublie plein d'organismes. artisans, des associations d'insertion. Enfin voilà, on a recruté quasiment plus de 1000 personnes. On s'est appuyé sur 200-300 techniciens, spécialistes, chefs d'équipe qui connaissaient le métier. Et avec eux, on a recruté plus de 1000 salariés, dont quasiment 600 qui sont passés par des dispositifs d'insertion et de formation qu'on a créés localement.
Alors l'Aveyron est beau, mais l'Aveyron est vaste aussi avec des reliefs, des rivières. Bon, tirer la fibre dans notre département, c'est plus compliqué qu'ailleurs ou pas ?
Oui. Voilà, faut être cash, hein. Je vais pas vous mentir. Si on a 300 000 prises à faire en Aveyron, Lot-Lozère et 300 000 prises à faire en Gironde, ben c'est pas pareil. Hein. Voilà, la densité ou dans le nord de la France, enfin voilà, la densification est pas du tout la même. Donc oui, c'est plus dur parce qu'on sait très bien qu'il va falloir faire 2-3 km de fibre quand ailleurs en France, on va en faire en moyenne 400 mètres. Voilà, donc oui, c'est plus difficile.
Voilà, ce déploiement de fibre avec l'opérateur Bouygues Télécom n'empêche pas d'en choisir un autre pour son abonnement. Hein.
Au jour d'aujourd'hui, nous, on construit un réseau. Ce réseau-là, on le rend disponible à tous les opérateurs. Il y en a 250 de recensés à l'ARCEP, mais le grand public en connaît surtout 4, Orange, Bouygues, SFR et Free. Donc ce qui les intéresse, les questions qu'on a, c'est mais quand est-ce qu'arrive Bouygues ? Eh ben alors Bouygues vient d'arriver et ça y est, c'est parti. Donc aujourd'hui, on a Orange et Bouygues. Et puis actuellement, je suis en train de finaliser l'arrivée de SFR, qui est en train de construire ses liens pour pouvoir accueillir des clients. Et puis, on attend la signature et le retour de l'autorisation de l'ARCEP pour Free d'ici quelques semaines. Et normalement, on va dire fin du semestre, pour l'été, on devrait avoir les 4 opérateurs présents sur le réseau. Et là, ça serait une bonne chose pour nous, société de projet. Après, je dirais, les opérateurs, ils se feront la guerre, ce que j'espère, parce que comme ça permettra à tout un chacun d'avoir des offres intéressantes et puis de remplir le réseau qu'on est en train de construire.
En tout cas, grosse arrivée de Bouygues Télécom pour la fibre en Aveyron. Christophe Philippe est le directeur des opérations extérieures pour le réseau Sud-Ouest Bouygues Télécom. Et là, le déploiement sur l'Aveyron, le Lot et la Lozère, c'est pas un petit morceau.
Non, parce qu'on est très présent dans les couvertures des zones rurales, dans le mobile. Donc on est déjà beaucoup dans ces territoires. Je suis beaucoup plus dans les territoires ruraux que dans les territoires urbains aujourd'hui. L'enjeu, c'est de casser la fracture numérique, tant sur le mobile que sur la fibre. Donc c'est des gros morceaux. Je dirais l'Aveyron est le gros morceau des trois pour nous.
D'accord. C'est là où il y a le plus de prises à installer ?
C'est là où il y a le plus de monde déjà par rapport à la Lozère, clairement, au Lot aussi. Et puis, c'est là où il y a le plus d'émulation autour de ces sujets-là. Donc, pour nous, c'est un sujet sur lequel on est très challengé en Aveyron.
Pourquoi vous engagez dans cette démarche d'installer un maximum de prises alors que, la densité fait que ce ne sera peut-être pas forcément rentable au premier abord ?
La densité, elle a vécu son temps. Je dirais les zones très urbaines, moyennement denses, très denses, elles sont déjà très équipées, suréquipées. Donc il y a déjà une lutte concurrentielle qui se fait. Aujourd'hui, notre priorité, c'est d'être présent dans les territoires pour accompagner les élus, les délégations de services publics. Et puis d'aller chercher un peu moins de clients peut-être, mais d'aller chercher aussi des clients pour montrer qu'on est aussi bon à la campagne qu'à la ville.
L'installation de ces prises, ça se fait en collaboration avec les élus locaux ou pas du tout ?
L'installation, elle se fait en collaboration avec les élus locaux indirectement, systématiquement, puisque la DSP est notre interlocuteur privilégié et systématique. Donc on travaille tout le temps avec la DSP sur tous les raccordements. Donc il y a une forme de collaboration permanente sur ce sujet-là. Et puis je vous cache pas qu'on est très vigilant, parce que si le client citoyen va se plaindre à ses élus, c'est nous qui allons prendre. Donc on est très très vigilant sur le raccordement du client. Et puis parfois on abandonne même des raccordements sur des situations un peu complexes, des grosses maisons en pierre ou des choses comme ça. Si le client ne veut pas qu'on abîme sa pierre ou qu'on abîme son domicile, on se retire et puis on ne va pas chercher à raccorder à tout prix.
Oui, est-ce que vous avez la pression, parce que si j'ai bien compris, tout l'Aveyron doit être fibré d'ici la mi-2023, le calendrier il est serré ou ça va ?
Alors là, c'est plutôt côté DSP qui est vraiment l'installateur de l'infrastructure où il y a une grosse pression parce qu'il y a, vous avez entendu, des éléments financiers majeurs. Mais nous, on se met la pression parce qu'on va aller chercher des clients derrière ces installations et on a besoin d'aller capter du client de toute façon. Donc la pression, elle est un peu partagée. Elle est plus sur les épaules de la DSP à aujourd'hui que sur nos épaules à nous. Nous, on a une pression commerciale sur la réussite en fait de l'arrivée dans le département.
Alors c'est vrai que là, j'y connais rien, mais quand on pense à la fibre, on a tendance à penser à un produit qui s'adresse plutôt à des gens urbains, de grandes métropoles. Les zones rurales comme le nôtre comptent autant d'abonnés en proportion.
Oui, c'est étonnant de voir. J'ai envie de vous dire, le Covid est un peu un accélérateur de plein de choses. Les gens sont restés chez eux, ils ont eu besoin de communiquer, envie de communiquer, envie de divertissement, envie de vidéo. L'explosion a été incroyable en termes de consommation data mobile et fixe. La fibre, je dirais, c'est un peu une évolution technologique qui suit la société. Elle n'est pas plus pour la ville que pour les ruraux. Un agriculteur a tout autant besoin de la fibre pour son activité professionnelle qu'une profession libérale à la ville. Les besoins sont même peut-être parfois plus important à la campagne, parce que l'éloignement fait qu'on a besoin de beaucoup communiquer. Et puis, toutes les nouvelles technologies liées à l'agriculture, liées à l'élevage et tout ça, nécessitent cette connexion numérique puissante. Donc, c'est valable pour les agriculteurs, pour les entreprises que vous avez en Aveyron, qui sont un peu isolées aussi. Tous ces gens-là, professionnellement, en ont besoin. Et puis, les particuliers aussi. Aujourd'hui, on consomme pareil à la campagne. On regarde la même série Netflix à la campagne qu'à la ville.
Aveyron, Lozère, Lot, là, pour... C'est courant de travailler comme ça avec plusieurs départements pour Bouygues Télécom ou...
sur ma région spécifiquement, je travaille sur 20 départements, Nouvelle-Aquitaine et anciennement Midi-Pyrénées. C'est la seule alliance de départements qu'on a pu observer. Les autres départements travaillent en propre. J'étais en Ariège il n'y a pas longtemps. Bah, c'est le département de l'Ariège qui travaille pour l'Ariège.
Ouais, donc ouais, Ariège n'a rien à voir avec le nombre d'habitants. Parce qu'Ariège,
j'ai donné cet exemple-là pour vous montrer que ce n'était pas lié à un nombre d'habitants, mais c'est plutôt lié à des volontés politiques. Je pense qu'il y a une volonté politique commune des trois départements à faire quelque chose de plus fort ensemble.
Alors ces derniers mois, on a tous plus ou moins vu des personnes venir installer la fibre sur le département de l'Aveyron, soit en ville, soit en dehors de la ville. Ma question, c'est à partir de quand je peux avoir la fibre, l'utiliser, combien de temps après que la personne soit venue installer le fil ?
Je ne sais pas, j'ai fait deux raccordements fibre en ce qui me concerne. Le premier, il a mis 15 secondes, le deuxième, il a mis 2 heures. En fait, dès qu'on vous branche et que vous êtes provisionné sur le réseau Bouygues Télécom, l'avantage, c'est que c'est quasiment instantané. Le technicien ne part pas si vous n'êtes pas connecté, en gros.
C'est-à-dire que moi, quelqu'un qui vient m'installer mon fil chez moi, ouais, le lendemain, je peux vous appeler pour me prendre mon abonnement, ça marche.
Alors, si vous avez la fibre qui arrive devant chez vous, qui est installée, dès qu'on est éligible sur notre site, dès que vous êtes éligible sur notre site ou sur le site de la DSP, vous avez la possibilité d'être raccordé très rapidement. Ouais. Ah, d'accord. On prend rendez-vous, on trouve un installateur disponible, le monsieur qui est derrière, par exemple, et il va venir, dès que son planning le permet, il va venir chez vous raccorder.
Pour être sûr que l'on est bien raccordé, il faut aller taper son adresse sur le site arcep.fr. Arcep, c'est ARCEP. Allez, autre sujet dans le MAG sur CFM Rhodes. Une réunion publique jeudi soir à Flavin. C'est organisé par le collectif pour la préservation des terres agricoles du Ruthénois, opposé au parc des expositions de Malan. Claudine Bonhomme, secrétaire de l'association.
Oui, parce que on s'était engagé l'an dernier, quand nous avons rencontré les agriculteurs concernés par le projet de l'axe Flavin, en passant par le parc des expositions de Malan jusqu'à la RN 88, le Lâcher, où ils veulent faire un double échangeur. Donc, on avait rencontré les agriculteurs et on s'était engagé à les re-rencontrer pour les tenir au courant de l'avancée du projet, d'autant plus que quand même certains d'entre eux ont vraiment participé financièrement à la lutte juridique. Mais au-delà de ça, on veut aussi informer les habitants, notamment de Flavin, puisque les conseillers départementaux sont très 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 discrets sur le parc des expositions et son avenir ou pas, et sur cette nouvelle route qui est prévue par le conseil départemental. Donc on veut toucher les gens à la fois de Flavin, mais aussi des communes à côté, Sainte-Radegonde, le monastère, bien évidemment Luc la Primaube et Olemps, qui peuvent être très impactés par cette nouvelle route.
On rappelle que le collectif pour la préservation des terres agricoles du Ruthénois lutte et est opposé au projet de parc des expositions de Malan. Bon, là, cette réunion publique, il y aura en fond évidemment le parc des expos, mais cette réunion publique, c'est autour du projet de route pour justement rejoindre le site, un projet de route prévu dans le projet.
Oui, on a prévu quand même de reprendre tous nos arguments avec un PowerPoint sur le pourquoi le parc des expositions n'a pas de sens à être construit. Mais c'est sûr que ce qu'on veut créer, c'est une dynamique collective, que des gens puissent donner leur avis, d'autant plus que quand même, on reconnaît que l'axe de Millau à Albi qui passe par Flavin et la Primaube apporte beaucoup de nuisances aux riverains. Mais on voit aussi que le nouvel axe qui est prévu dégagera ces riverains qui sont au bord de la route de l'axe actuel, mais va impacter beaucoup d'autres personnes. Donc en fait, on voudrait collectivement essayer de réfléchir comment on peut à la fois contourner Flavin et la Primaube, mais sans amener toute la circulation au beau milieu de l'agglomération ruthénoise, le projet actuel fait par le conseil départemental.
Donc la route, donc vous êtes contre, mais vous êtes ouvert à des alternatives quand même, dans l'idée où le parc des expos se ferait quand même.
Hein. Ah non, là quand on vous parle de contournement, c'est pour vraiment répondre au premier besoin qui a été présenté par le conseil départemental pour cet axe, qui est le contournement de Flavin et de la Primaube. Mais ce contournement, pour nous, n'a pas de sens, puisqu'à place de passer par l'est, on est en train de ramener tout au cœur de l'agglomération. Nous, on reste toujours sur l'idée que pas de parc d'exposition, cet nouvel axe routier n'aura pas de sens, puisqu'en fait, il n'est fait que pour alimenter le parc des expositions.
Je vous avais vu il y a quelques mois, à peine, enfin, avant les fêtes, autour d'un recours au tribunal administratif de Toulouse, toujours contre ce projet de parc des expositions. Vous avez du neuf, là ?
Oui, on a enfin eu le mémoire réponse de l'agglomération et des communes de Olemps et de Luc-la-Primaube. Donc, notre avocat va y répondre. Nous sommes très confiants par rapport au fait qu'il y a quand même beaucoup d'illégalités qui ont été produites pour faire le permis de construire du parc des expositions. Donc on est confiants, mais bon, ça c'est long. Par contre, on a toujours quand même nos référés suspension qui n'ont pas été validés par le juge des référés de Toulouse en septembre, qui est en Conseil d'État. Donc là, c'est un peu long aussi. Donc on est en attente de tous ces résultats.
D'accord. Mais une attente, parce que long, il y a long et long. Long, ça peut être 2-3 mois ou ça peut être 2-3 ans.
Pour le Conseil d'État, on espère 6 mois peut-être. Pour le jugement, le recours en annulation du permis de construire, peut-être plutôt encore un an. C'est des hypothèses, je ne sais vraiment pas. D'accord. On est contraint par la justice et les dysfonctionnements de la justice à cause du manque de moyens humains qu'ils ont.
Simon-Pierre, vous êtes ici aussi à l'occasion de cette conférence de presse. Simon-Pierre, je vous avais reçu parce que vous êtes voisin du chantier. Mais alors quand je dis voisin, c'est on ouvre la fenêtre et on tombe sur le terrassement, enfin les premiers travaux effectués sur le site du projet des parcs des expositions de Malan. Donc comme vous êtes bien placé, on en est où là ? Ça fait un moment que je suis pas allé sur le site, moi.
Alors on avait exposé dans les précédentes émissions sur qu'il y avait trois projets, un projet de parc d'activité. Donc là il y a les voiries qui sont en train d'être créées. Ensuite il y a une deuxième parcelle qui concerne le parc des expositions où là le projet est bloqué actuellement car comme l'expliquait Claudine, actuellement ça se joue au tribunal. Et le troisième projet sur lequel les élus sont assez discrets, c'est un projet de création de route. Donc comme l'expliquait Claudine, on aimerait bien avoir des informations dessus. Et bien faire profiter l'ensemble de la population, vu que ce rôle de communication n'a pas été réalisé jusqu'à présent.
Et donc ça veut dire que là, de ce que vous me dites, c'est que les travaux se poursuivent, il y a des grues, des bulldozers
Alors beaucoup moins qu'au début, ça tourne un peu ralenti, alors on ne sait pas si les projets ont été plus ou moins figés pour l'instant, mais on continue à avoir un petit peu d'activité pour la voirie de la future zone commerciale.
Vous restez optimiste parce qu'en voyant des travaux qui avancent quand on est opposé à ces travaux, on se dit que chaque jour qui avance fait que ça va pas dans la direction dans laquelle on veut que ça aille.
Concernant le parc des expositions, moi je suis plutôt très confiant parce que concernant les retours qu'on a eu au niveau des référés, des premières instances au tribunal, on est plutôt très très confiant. Après, il faut attendre un changement de mentalité qui peut être assez long. On sait que, comme beaucoup de gens, on pense que c'est une ineptie de construire un parc des expositions là-dessus. On demande aux élus de revenir sur du bon sens et peut-être qu'il y a un nouveau projet plus cohérent qui émergera à ce niveau-là. Mais pour l'instant, c'est figé, quoi.
Claudine, je reviens à la réunion publique le 27 janvier, 20h30, salle des festivités de la Faille à Flavin. Qui va prendre la parole ? Ça va être quoi un petit peu l'organisation ?
Bon, mais comme je disais tout à l'heure, en fait, on va à la fois expliquer les arguments que nous avons contre la construction d'un parc des expositions. On reprendra historiquement un peu aussi toutes les actions que nous avons menées depuis plus d'un an. Et puis après, on échangera, on verra si les agriculteurs ont été interrogés dans le cadre de l'étude d'impact que le département a lancée pour construire ce nouvel axe Flavin Parc des Expositions RN88. Donc on échangera et on verra collectivement comment on peut faire des propositions alternatives à cette route qui provoquerait beaucoup de dégâts et chez les agriculteurs et chez les habitants.
Dernière chose, puisqu'on peut encore
On est au mois de janvier. Je peux vous demander un vœu pour 2022 pour du collectif pour la préservation des terres agricoles du Ruthénois.
Un vœu, c'est on espère qu'on aura les résultats positifs du Conseil d'État, ce qui vraiment réglerait tout problème. Hein. L'agglomération aurait à revoir sa copie complètement à zéro. Il faudrait qu'il refasse tout un projet. Et là, on espère qu'il respecterait les obligations d'une étude d'impact publiée, d'une enquête d'utilité publique où les habitants pourraient vraiment participer, mais surtout qu'ils les écoutent, parce que s'ils restent dans leur logique, on peut craindre quand même.
Voilà, la réunion publique du collectif pour la préservation des terres agricoles du Ruthénois, c'est donc jeudi soir à partir de 20h30, salle des festivités à Flavin. L'entrée est libre avec passe vaccinal. C'est la fin du mag pour aujourd'hui. Très bonne journée à toutes et à tous sur CFM Rhodes. Rendez-vous demain, même heure, pour une nouvelle édition.